Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International.
Bonsoir à tous, Amnesty International, la bimensuelle. Donc ce soir avec nous, Ronan.
Il dit pas bonjour.
Bonsoir.
Françoise.
Bonsoir.
Didier.
Bonsoir.
Claire-Lise.
Bonsoir.
Et moi-même, Mina. Donc,
c'est vrai, on confirme, c'est bien Mina qui est au micro.
Voilà. Donc pour changer, il y a 15 jours, j'ai fait 3 minutes de rubrique culturelle. Donc là, je me suis imposée, je commence par la rubrique culturelle. Alors ce soir, une BD à vous présenter sur la Syrie. Sur la jeunesse syrienne de Haytham. Cette histoire, ça se passe à Dera, en Syrie. Haytham est le fils d'un des leaders de la jeune révolution. À 14 ans, il est sur les premières barricades, mais bientôt, il doit fuir. Il arrive en France, un pays dont il ne parle pas la langue. 4 ans plus tard, après une mention bien au bac, le jeune réfugié est devenu un élève brillant de maths sup. Cette histoire vraie, à la fois tragique et porteuse d'espoir, est racontée par Nicolas Hénin, grand reporter et spécialiste de la Syrie, qui fut pendant près d'un an otage de Daesh et mise en image par le dessinateur de Yalabay, dont je vous ai déjà parlé. Haytham a activement participé à l'écriture du scénario, donnant à ce récit passionnant toute sa vérité. Voilà.
Et si je peux faire un petit commentaire en parlant de Syrie, on va y revenir bien sûr dans le courant de l'émission, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Syrie a encore fait la une de l'actualité dans des conditions très, très dramatiques. Mais on va y revenir.
Merci Didier. Deuxième ouvrage, alors c'est un roman épistolaire, assez daté, mais très intéressant dans sa construction. Alors... L'histoire, Martin Schulz,
quel
allemand.
Quel est le titre du roman, excuse-moi.
Inconnu à cette adresse.
Ah bon.
Françoise.
Tu parles de Françoise qui est inconnue à cette adresse. Non, du roman.
Oui.
Je ne comprends plus.
C'est Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor.
On a dit qu'on laissait la parole à Mina au
oui.
début. Arrêtez de l'interrompre toutes les 2 secondes. Ah, vas-y Mina.
Surtout que je me prends pour...
Comment elle se défend entre copains?
Un peu comme un rocker, là, parce qu'avec ma taille, le micro
oui.
et tout, je suis un peu dans une posture, comment te dire?
C'est quand qu'on passe en émission télévisée?
Mais tu...
Voir Mina.
Je peux faire une photo et peut-être l'envoyer par SMS.
Voilà. Allez, le résumé. Martin Schulz, allemand, et Max Eisenstein, juif américain, sont 2 galeristes associés aux États-Unis. Ils sont surtout 2 amis fervents, 2 frères. Malgré l'installation de Martin à Munich, ils poursuivent leur amitié à travers des lettres chaleureuses, passionnées. En juillet 1933, pourtant, les doutes et le malaise de Martin face au remous du gouvernement allemand font vite place à un antisémitisme que ne tempère plus la moindre trace d'affection. D'une cruauté imparable, sa décision tombe comme une sentence. Ici, en Allemagne, un de ces hommes d'action énergique essentiel est sorti du rang. Et je me rallie à lui. Si vous voyez à qui il va se rallier,
on a Hitler. On a une petite idée, oui, effectivement.
Par sa forme diabolique superbement maîtrisée d'abord et son aspect visionnaire ensuite, en 60 pages à peine, l'auteur parvient en effet à capter avec justesse l'histoire en marche et à nous faire saisir à travers le drame intime des 2 personnages toute la tragédie qui se joue outre-Atlantique. Voilà pour mes 2 suggestions de ce soir.
Tu nous rappelles les titres ?
Oui. Haytham, une jeunesse syrienne, par Nicolas Hénin et Kyungun Park, aux éditions d'Argo, et Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor, aux éditions Autrement. Voilà, je passe la parole à Claire-Lise.
Non, c'est moi qui devais prendre
la parole.
Ah, désolée, Françoise.
C'est Françoise qui devait parler.
Voilà, et bien simplement quelques mots, mais vraiment, j'ai été très touchée là ce matin quand j'ai entendu que le camp de Grande-Synthe avait été brûlé. Le maire, M. Damien Carême, de ce village-là, avait vraiment donné toute son âme pour construire ce camp. Et ce midi, je l'entendais à la télé, là, et il était décidé à entreprendre autre chose. Mais vraiment, chapeau à lui quand même.
Bah, disons que c'était la première tentative pour faire des migrants et des réfugiés à Grande-Synthe, là dans le Nord, qui espèrent toujours passer en Grande-Bretagne. C'était la première tentative pour qu'ils aient des conditions de vie décentes.
Eh oui.
Autrement que ce qu'on a appelé la jungle, c'est-à-dire un bidonville de tentes, etc. C'était une petite maison en bois, c'est ça?
Oui.
Des chalets en bois, voilà. Et effectivement, ça a été incendié, on suppose, je ne sais pas très bien, par des histoires de querelles entre habitants.
Afghans et Turcs.
Mais bon, effectivement, et c'est quelqu'un qui, si je ne me trompe, avait fait ça malgré des avis défavorables de l'État, oui, etc. Et donc, il s'était battu pour ça et on lui doit effectivement... on doit effectivement tirer notre chapeau pour son action et l'encourager s'il veut refaire quelque chose de décent. Encore une fois, la Déclaration universelle des droits humains précise que le droit à un logement décent, est un droit fondamental, quelles que soient les circonstances. En parlant de migrants, je pense que ça fait un lien avec ce que Claire-Lise va nous dire.
Oui. Alors l'actualité, là sur les 15 jours, il y a eu des trucs pas rigolos. Il y a eu effectivement toute une vague d'attentats en Europe. Et il y a eu, il y a quelques jours, une attaque chimique en Syrie. Donc on ne pouvait pas faire cette émission sans aborder cette attaque chimique parce que c'est quelque chose qui nous touche profondément. C'est-à-dire que c'est un degré de plus dans l'horreur. Il y a l'horreur de la guerre, mais c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime de guerre. Enfin, c'est plus qu'un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité d'utiliser des gaz chimiques. Et là, il y a un cran dans l'horreur qui a été franchi, et on pouvait pas ne pas en parler. Donc, en fait, le 4 avril, un agent neurotoxique de type gaz sarin a été lâché lors d'un raid aérien sur la ville de Khan Cheikhoun, dans la province d'Idlib. Alors, donc c'est un article qui est paru pour Amnesty International. Et donc, cet agent neurotoxine, ça a été authentifié et analysé. Des dizaines de vidéos ont été enregistrées sur le site de l'attaque. Donc, l'attaque du 4 avril est l'attaque chimique la plus meurtrière enregistrée depuis l'adoption par le Conseil de sécurité en septembre 2013 de la résolution 2118 pour l'élimination des armes chimiques en Syrie. Elle fait suite à l'utilisation d'autres armes chimiques et à de nombreux crimes de guerre commis au moyen d'armes chimiques. Alors, en 2013, il y avait eu quand même les Nations Unies avait insisté pour que Bachar el-Assad soit dépossédé de ses armes chimiques. Il y avait eu des observateurs de l'ONU qui étaient allés et on pensait qu'il n'avait plus d'armes chimiques.
Il s'était engagé à détruire les stocks.
Il s'était engagé, mais bon, il a fait la preuve de sa parole. Hein.
Ah bon, donc, c'est un menteur.
Oui. Un grand nombre de victimes de cette attaque qui a eu lieu donc vers 6h30 heure locale, mardi 4 avril, ont manifestement les victimes ont été empoisonnées alors qu'elles dormaient dans leur lit. Des experts en armes chimiques qui collaborent avec les chercheurs ont confirmé que les victimes ont très vraisemblablement été exposées à un agent neurotoxique ou à un composé organophosphoré tel que le sarin. Donc, il y a eu aussi des enregistrements vidéo qui ont été réalisés immédiatement après l'attaque. Et les victimes donc, ont les pupilles très contractées, ce qui est considéré comme un symptôme classique d'un empoisonnement par des produits neurotoxiques. Alors, je vous passe les détails parce que dans l'article-là, il y a des détails sur l'état des victimes. Moi, j'ai pas envie de vous en parler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des femmes, des enfants qui sont morts, beaucoup d'enfants qui sont morts suite à cette attaque. Et ils mouraient plus vite que les adultes parce qu'effectivement,
ils sont moins résistants.
Leurs poumons n'ont pas pu résister. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation d'armes chimiques est strictement interdite par le droit international humanitaire et elle constitue un crime de guerre. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et les Nations Unies ont conjointement confirmé que depuis 2013, plusieurs attaques ont été commises avec des armes chimiques, autant par les forces gouvernementales que par des forces non gouvernementales. C'est-à-dire qu'il y a des accords qui ont été passés, mais que malgré ça, à plusieurs reprises, il y a eu des infractions et l'utilisation de ces armes n'a jamais été totalement éradiquée. Personne n'a été déféré à la justice. En février 2017, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité visant à prendre des mesures au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies en cas de transfert ou de tout emploi non autorisé d'armes chimiques par quiconque en République arabe syrienne. Donc Amnesty International avait rappelé à de nombreuses reprises le Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre fin au cycle de l'impunité et à saisir le procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Syrie. Des mesures visant à faire respecter la justice et l'obligation de rendre des comptes doivent être prises de toute urgence. Les éléments de preuve réunis indiquent qu'un agent neurotoxique a été utilisé pour mener une attaque chimique aérienne qui a tué plus de 70 personnes et blessé plusieurs centaines de civils à Khan Cheikhoun, cette petite ville située dans la province rurale d'Idlib, et qui est une des rares régions du nord-est de la Syrie, se trouvant toujours sous le contrôle de l'opposition. C'est pas pour rien que Bachar al-Assad a fait envoyer ses tirs sur cette ville-là.
Oui, c'est pour intimider les gens qui s'opposent toujours à son régime.
Voilà. Donc ces derniers mois, cette province est devenue un point de rassemblement pour les personnes fuyant les violences à Alep et ailleurs. Les membres du Conseil de sécurité, en particulier la Russie et la Chine, ont fait preuve de mépris à l'égard des vies humaines en Syrie en s'abstenant à plusieurs reprises d'adopter des résolutions qui auraient permis de prendre des sanctions contre ceux qui commettent des crimes de guerre et d'autres graves violations dans ce pays. Donc le Conseil de sécurité doit immédiatement voter en faveur d'une enquête sur cette attaque et contribuer à ce que les responsables soient déférés devant la justice. S'il ne le fait pas, cela aura des conséquences catastrophiques, notamment parce que les gouvernements et les groupes armés en Syrie hésiteront encore moins à commettre des crimes de guerre contre les civils en utilisant des armes interdites ou classiques. Et suite à cette attaque, on a l'épisode 2. Suite à cette attaque, les États-Unis ont répondu 3 jours après en bombardant une base aérienne syrienne. Donc 3 jours après l'attaque chimique qui a tué plus de 80 civils, les États-Unis ont lancé des frappes contre une base aérienne de l'armée syrienne à Homs. Le président Donald Trump, j'arrive pas à dire son nom, hein, je suis désolée, ça passe pas, a déclaré que cette attaque était motivée par l'inquiétude à l'égard de la vie des civils syriens, alors que son administration fait preuve d'un mépris flagrant envers les Syriens qui tentent de fuir pour échapper à la mort et qu'il a quand même fait un décret refusant l'accès aux États-Unis aux réfugiés venant des pays arabes, notamment de Syrie. Donc de qui se moque-t-il ? Donc il doit immédiatement révoquer le décret interdisant aux citoyens de plusieurs pays musulmans d'entrer sur les territoires américains et mettre fin aux restrictions visant les réfugiés syriens qui fuient l'horreur de leur pays. Toute intervention doit respecter le droit international humanitaire. En outre, les forces américaines doivent respecter strictement les obligations découlant du droit international humanitaire et prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population civile lorsqu'elle procède à une opération militaire, notamment en s'abstenant d'utiliser des armes interdites au titre du droit international, comme les armes à sous-munitions. Les récentes frappes aériennes de la coalition que dirigent les États-Unis en Irak et en Syrie ont tué des centaines de civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants pris au piège chez eux. Donc le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à protéger les civils en Syrie durant les 6 dernières années. Cela a encouragé toutes les parties au conflit en Syrie à commettre des crimes horribles en toute impunité. Il est impératif que les États membres du Conseil adoptent une résolution permettant de garantir la tenue sur le terrain d'une enquête sur l'attaque à l'arme chimique qui s'est déroulée à Kanchenkun, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi de contribuer à traduire en justice les responsables présumés de ces crimes. Et je vous invite à signer une pétition sur le site d'Amnesty International qui s'appelle « Pas d'impunité pour les crimes commis en Syrie ». Donc voilà, c'est une pétition qui est en ligne. Je ne vais pas vous lire tout parce que je viens déjà de vous parler de un petit peu de tout ce que ce qu'on reprochait à ce qui se passait là-bas. Mais c'est donc elle s'adresse au président de la République française et elle lui demande d'intervenir avec force pour que la France demande à ce que les crimes qui ont été commis en Syrie soient jugés par le droit international et devant la Cour pénale internationale.
Oui.
Voilà.
Où devrait être convoqué M. Bachar el-Assad, criminel de guerre, pour le moins. Je rappelle, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres émissions, mais il faut toujours le rappeler que, encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Malheureusement, encore une fois, il ne s'est rien passé de tel, et qu'on attend que les drames se passent pour dire « oh là 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 là, c'est pas bien » et intervenir de même de façon un peu, comment dire, unilatérale et un peu dangereuse, comme a fait M. Trump récemment. Et que si on se réfère au rapport d'Amnesty sur la Syrie, les premiers qu'on a retrouvés dans les archives, moi je me suis amusé à faire un petit travail il y a pas mal de temps là-dessus, mais date des années 70, du temps du père de M. Bachar el-Assad, qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs,
Il
s'appelait
donc...
el-Assad aussi, mais enfin
Hafez
bon. Hafez el-Assad, merci.
Justement, dans la BD que j'ai présentée, au début ça commence par son père, Bachar el-Assad, et il pensait qu'il allait avoir du renouveau, et non, c'est le fils qui est arrivé avec les mêmes...
Voilà, exactement.
La même dictature.
Et donc c'est héréditaire, là
non, c'est pas...
Non, j'espère pas.
En soi, ça coule pas dans les veines.
L'abus de pouvoir est héréditaire, mais oui. Encore une fois, les crimes de cette famille-là, de ces dictateurs-là, de père en fils, sont dénoncés depuis les années 70 par Amnesty, et qu'il aurait bien été bien plus intelligent, effectivement, d'intervenir en amont, et on n'en serait pas là. D'ailleurs, il n'y aurait même pas de guerre, on peut imaginer, en Syrie à l'heure actuelle, et il n'y aurait pas besoin qu'autant de milliers de gens fuient la Syrie. Ça me fait un petit parallèle aussi avec ce que je voulais vous dire là dans la foulée. Parce que ça m'a rappelé aussi ce que disait une candidate, enfin, il n'y en a qu'une, une candidate à l'élection présidentielle en France.
Non, il n'y en a pas qu'une.
Qui disait... Ah non, pardon, il y en a deux. Enfin bon, celle qui est supposée arriver en tête et être présente au deuxième tour, il n'y en a qu'une là par contre.
Celle de la dynastie.
Voilà, celle aussi qui est candidate,
c'est une série,
qui est candidate de père en fille. De père en fille.
Ouais, c'est la série française.
Comme on est dictateur de père en fils, là, ils sont candidats de père en fille.
Oui, bon, ça, c'est pas les feux de l'amour. Hein.
Non. Et donc,
ça ressemble un peu. Hein.
Et donc, elle disait sur une radio il y a quelques mois que, à propos du fait de fermer la frontière aux demandes de réfugiés syriens, elle avait répondu au journaliste qui lui posait la question en disant quand même c'est un petit peu osé de dire ça. Elle avait répondu, mais il serait bien plus intelligent que ces gens-là effectivement combattent la dictature de Monsieur Bachar el-Assad, si dictature il y a, directement chez eux. Bah oui, c'est sûr, on va envoyer des bébés contre des bombes à gaz neurotoxique, c'est sûr, c'est plausible. Mais enfin, ces gens-là n'ont peur de rien dans ce qu'ils affirment. Et donc, ça fait un parallèle par rapport aux élections, parce qu'on va vous dire un petit mot, non pas pour vous appeler à voter encore une fois pour un candidat, mais pour répondre...
Et là, tu viens en France, là ?
Oui. Oui, les élections en France. Et par rapport à un petit questionnaire qu'a publié Amnesty qui s'appelle « Info ou Intox », donc par rapport à l'état d'urgence, la sécurité, la liberté, les réfugiés et le terrorisme. Mais avant de vous en parler, on va faire ça avec Françoise, avant de vous en parler, je vais juste vous lire quelques lignes d'une interview du secrétaire général d'Amnesty qui s'appelle Salil Chetti, et qui a été interviewé dans la chronique. La chronique, c'est le mensuel d'Amnesty, on vous le rappelle aussi, c'est toujours intéressant de s'y abonner. Vous pouvez le faire sur le site d'Amnesty. Et à la question, quelle réponse Amnesty International peut-elle apporter aux citoyens français gagnés par la peur ? On parle bien sûr des élections à venir, les discours haineux et la tentation du repli. Réponse de Salil Chetti. Les élections qui approchent soulèvent beaucoup de questions. Le Front National est connu pour son discours qui diabolise les migrants et les musulmans. On le voit à travers les images de leur campagne montrant une femme SDF à qui l'on dit en substance « Vous seriez mieux lotis si vous étiez migrante ». Je suis très préoccupé par ce climat qui génère l'anxiété et la peur chez les minorités et les migrants dans ce pays. Mais il ne s'agit pas seulement du Front National. Notre inquiétude concerne les propos de tous les candidats. Amnesty France observe de près leur programme, leurs discours, leurs actes. L'une des conséquences de cette atmosphère empoisonnée est que les réfugiés sont assimilés aux terroristes. C'est à la fois un non-sens absolu et une approche très dangereuse. Je pense souvent à Antoine Néris, dont la femme a été tuée au Bataclan. Il a écrit une lettre ouverte aux tueurs. Il leur dit « Vous avez essayé de me faire changer. Vous avez voulu que je choisisse entre la liberté et la sécurité, mais vous avez échoué. Je ne ferai pas ce choix fallacieux. » Autre conséquence de ce climat, la France n'a accepté de réinstaller que 10 000 réfugiés sur son territoire. Et dans les faits, elle en a réinstallé environ 2 000. Ce n'est pas les droits humains ou la sécurité, mais les droits humains pour la sécurité. Il y a un climat de ressentiment, de la colère. Il faut en traiter les causes et s'assurer qu'on ne viole pas les droits humains en répondant à une violation de ces droits, car c'est là que les problèmes commencent. Ce phénomène de peur et de repli n'est pas propre à la France. Il existe dans beaucoup de pays. C'est d'ailleurs l'un des principaux messages que nous voulons transmettre à l'occasion de la sortie de notre rapport annuel, qui vient de sortir il y a 2 mois. En fait, nous devons revenir à nos racines, l'éducation aux droits humains. Nous avons commencé par là, il y a plusieurs années, et nous devons y revenir. Certains leaders politiques manipulent les faits et présentent de fausses solutions comme des réponses à des inquiétudes légitimes. Beaucoup de préoccupations actuelles sont justifiées. Les institutions ont failli, les inégalités ont augmenté. Ce sont des faits. Mais la solution n'est pas de faire des migrants et des musulmans des boucs émissaires. Ce n'est pas par hasard que les responsables politiques utilisent ces boucs émissaires. C'est un choix qu'ils font visant à polariser la société. Pour Amnesty et les autres organisations de défense des droits humains, la solution consiste à défier ces soi-disant leaders politiques, à leur résister et pointer du doigt leurs mensonges en rétablissant les faits. Alors voilà, pour rétablir les faits avec Françoise, ben on va faire un petit dialogue. Donc, info ou intox ? Alors moi, je vais affirmer des choses et Françoise va y répondre.
Et nous, on va...
Première affirmation. L'état d'urgence est indispensable. C'est le meilleur moyen de nous protéger.
Depuis le 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été prolongé 5 fois. L'État a bien sûr le devoir de protéger la population. Mais des responsables de la lutte contre le terrorisme ont eux-mêmes convenu que l'état d'urgence n'était nécessaire que durant quelques semaines après les premiers attentats. De plus, avec une 20aine de lois antiterroristes votées en 30 ans, la France dispose d'un arsenal qui donne des pouvoirs d'action déjà extrêmement larges à la justice, à la police et aux services de renseignement. Depuis plus d'un an, 7253 mesures ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence. Perquisition, assignation à résidence, fouilles de véhicules sans autorisation judiciaire se sont multipliées, épuisant les forces de police sur de très nombreuses fausses pistes pour de faibles résultats comparés. De novembre 2015 à novembre 2016, l'état d'urgence a permis l'ouverture de 20 enquêtes judiciaires pour des faits en relation avec une entreprise terroriste, contre 196 qui ont été ouvertes par la justice antiterroriste dans le cadre des moyens habituels.
Alors,
oui, mais ça donne les pleins pouvoirs bah oui. Aux préfectures. Et comme ça, on maltraite les immigrés et qui viennent demander des titres de séjour, par exemple.
Alors, deuxième info ou intox et affirmation, l'état d'urgence ne change rien pour les personnes qui n'ont rien à se reprocher.
4348 perquisitions de nuit, 629 assignations à résidence, 2276 contrôles d'identité et de véhicules. Les milliers de personnes visées n'avaient, dans 99,7% des cas, aucun lien démontré avec des intentions ou actions terroristes. Les conséquences sont nombreuses pour les personnes visées. Traumatisme durable, y compris pour des enfants, impossibilité de travailler ou d'avoir une vie sociale et familiale normale, stigmatisation. Ces mesures sont disproportionnées, souvent arbitraires et parfois discriminatoires, certaines personnes ayant été visées uniquement en raison de leurs pratiques religieuses. Ces mesures ont aussi servi à restreindre le droit de manifester. De la COP21 aux mobilisations contre la loi travail, l'état d'urgence a permis d'interdire des dizaines de manifestations et d'empêcher des centaines de personnes de manifester.
Alors, troisième affirmation, la sécurité n'a pas de prix.
Dans le cadre de l'état d'urgence, toute personne dont le comportement est susceptible de représenter une menace pour l'ordre public est concernée. Ce ne sont donc plus les actes, mais les comportements qui sont désormais suspects, ce qui ouvre la voie à des mesures arbitraires. Des droits, comme celui de s'exprimer et de manifester librement, ou de voir sa vie privée respectée, d'aller et venir, sont attaqués. L'autorité judiciaire est écartée au profit de mesures de police préventives basées sur des soupçons, pas sur des preuves. Des garanties essentielles de la démocratie sont ainsi menacées. La présomption d'innocence, le droit à une procédure équitable, la possibilité de dénoncer les mesures dont on s'estime victime, le contrôle de la police par la justice. L'état d'urgence place les citoyens dans un état d'insécurité face à un état de plus en plus fort, sans garde-fous ni contre-pouvoir suffisant. Il doit être par nature exceptionnel et de courte durée. Sa pérennisation compromet l'état de droit et la sécurité de tous.
Alors, affirmation suivante. Les réfugiés devraient rester près de chez eux.
La guerre, les persécutions, les violences ont forcé plus de 20 millions de personnes à fuir leur pays. 86% trouvaient refuge dans des régions en développement, dotées de peu de moyens pour les accueillir dignement. Les pays riches, dont la France, se sont défaussés de leurs responsabilités. Pour en finir avec la crise de l'accueil des personnes réfugiées, il faut combiner plusieurs réponses. Œuvrer pour mettre fin aux conflits et aux violences qui forcent des personnes à fuir. Assurer un accueil digne de ces personnes dans les pays où elles sont réfugiées. Permettre aux personnes réfugiées de rejoindre en sécurité un autre pays ou reconstruire leur vie.
Alors, accueillir des réfugiés nous expose à la menace terroriste.
Les personnes réfugiées fuient les menaces, la persécution, les guerres et la terreur. Leur refuser l'entrée et l'asile, c'est les condamner à rester sous le joug de la terreur et de la tyrannie. La sécurité des sociétés d'accueil est sérieusement prise en compte dans les textes relatifs aux réfugiés. Lorsqu'une personne représente une menace grave pour la société, elle n'est pas reconnue réfugiée. Quand les personnes réfugiées sollicitent l'asile, elles demandent juste ce que nous voudrions à leur place, reconstruire leur vie, voir leurs enfants grandir sans avoir peur de ce qui peut leur arriver.
Mais la France n'a pas les moyens d'accueillir des réfugiés.
Certes, les premiers temps, l'accueil des personnes réfugiées représente un coût. Il s'agit de leur permettre de vivre dignement le temps de se remettre d'aplomb et d'apprendre le français pour faire partie de la société. La France, sixième puissance mondiale quand même, a les moyens d'assurer son obligation juridique d'accueillir des réfugiés. Cet accueil se prévoit et s'anticipe. Il était question ici de volonté politique qui manque, hélas, fondamentalement aujourd'hui.
Voilà les quelques affirmations et les quelques réponses, les quelques, comment dire, mises au point. Et donc, qui me permet de conclure ici dans ce petit document, de dire stop, bien sûr, à l'état d'urgence et accueillons les réfugiés. Et bien sûr, ceci dans une campagne de mobilisation à propos des élections. J'en terminerai là-dessus. Ça m'a rappelé.
Il y a toujours la pétition dont je vous avais parlé il y a 15 jours, par rapport justement. C'est une pétition qui s'adresse au futur nouveau président de la France pour le respect. Ah oui, tu te rappelles?
Oui.
Pour le respect des droits humains et où on exige que justement il soit un petit peu plus mis en avant dans la prochaine.
C'est ce qu'on demande à chaque fois, mais bon.
Ouais.
Et effectivement, il y a Françoise qui me montre une petite carte effectivement qui circule actuellement au sein d'Amnesty. Voilà. Je veux une France terre d'accueil et de liberté qui est à renvoyer pour ceux qui l'ont au siège d'Amnesty. Et qui est destiné à la présidence de la République après les élections.
Donc, mais vous avez toujours la pétition.
Mais il y a la pétition, il y a la même chose en ligne, effectivement, tout à fait. Et donc, ça m'a rappelé tout à fait une phrase que j'ai lue, ça ne parlait pas du tout de... Ce n'était pas un texte qui parlait des réfugiés, là, mais un texte d'un anthropologue, c'est un bouquin qui n'avait rien à voir, mais un texte d'un anthropologue sur l'évolution de l'homme, et où il disait à propos de, il faisait une allusion par rapport au terrorisme, et en disant, mais à l'heure actuelle, un Français moyen a 10 000 fois plus de chances de mourir d'excès alimentaire, il parlait des problèmes d'alimentation, d'excès alimentaire, que de mourir du terrorisme. 10 000 fois plus de chances. C'est juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure.
Voilà, de retour, et vous venez d'écouter Far From Home de Neil Young. Et maintenant, la parole à Renan pour une bonne nouvelle.
Alors là, je vais, au niveau des bonnes nouvelles, je vais partir en Algérie. Daman Kerami, un militant algérien, a été libéré après avoir passé un an derrière les barreaux pour avoir participé en 2014 et 2015 à des mouvements de protestation sociale pacifique à Tamaracet, dans le sud de l'Algérie. Donc, nous allons continuer dans les bonnes nouvelles parce que faut aussi en dire, parce que c'est vrai que le début de l'émission, c'était pas très gai, on va dire. Donc, une deuxième bonne nouvelle, là, on va en Égypte.
En Égypte ?
Ouais, en Égypte. Donc, on reste dans.
Au Moyen-Orient.
Bah, ça va faire du bien parce que leur actualité, elle n'est pas super, ouais. Elle est pas super top.
Oui, et aussi, ils ont adopté un état d'urgence, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. J'ai entendu parler hier. Ça doit être un truc à la mode en ce moment. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, en Égypte, Gamilos Seyrieldaïn a été libérée le 14 mars, donc c'est récent, à la faveur d'une grâce présidentielle. Elle était la dernière militante emprisonnée du groupe de 5 militants condamnés à 2 ans de prison dans le cadre de l'affaire Abdène, pour avoir enfreint la loi égyptienne de 2013 sur les manifestations, un test répressif. Les 5 militantes sont donc maintenant libres. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'était la dernière qui restait emprisonnée.
D'accord. C'est bon ?
Oh ben je peux continuer. Hein. allez.
Une dernière.
On change de continent, là on va aux États-Unis. Sara Beltran Hernandez, une Salvadorienne, a obtenu sa libération sous caution et a été remise en liberté. Elle était incarcérée dans un centre de détention au Texas depuis 15 mois, bien qu'elle ait déposé une demande d'asile et qu'elle ait elle avait un besoin urgent de soins médicaux. Voilà, je te laisse la parole, Didier.
Alors, c'était plutôt Clarlise qui devait vous parler, de toute façon, de l'Europe. Quelques mots à vous dire sur l'Europe.
Alors, en fait, on voulait en parler il y a 15 jours et puis on avait tellement de trucs à vous raconter qu'on n'avait pas eu le temps de faire cet article. En fait, c'était un triste anniversaire, hein, il y a 15 jours, puisque c'était en fait, l'anniversaire de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, dont on vous avait parlé, qu'on avait dénoncé. Et donc, en fait, c'est l'année de la honte pour l'Europe. Donc, à l'occasion du premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord Union européenne-Turquie, Kondila Gogu, chercheuse sur la Grèce à Amnesty International, revient sur une année de souffrance qui aurait pu être évitée. Donc là, en fait, c'est un témoignage d'une personne qui avait demandé asile et qui est retenue sur l'île de Lesbos. « Je dors sur un matelas à même le sol, dans une cellule avec 5 autres personnes », m'a dit Nori en décembre dernier, quand je l'ai rencontré au poste de police où il est détenu depuis 6 mois sur l'île grecque de Lesbos. « Je n'ai rien à lire dans ma langue et on ne m'a pas donné de couverture propre depuis mon arrestation », donc soit 6 mois après son arrivée. 3 mois après, ce demandeur d'asile et ancien étudiant infirmier originaire de Syrie est toujours là-bas. On pourrait croire que le monde a oublié ce jeune homme de 21 ans à la voix douce. Pourtant, son cas est aujourd'hui examiné par la plus haute juridiction administrative de la Grèce. Le jugement attendu dans les 2 prochains mois déterminera non seulement son destin, mais aussi l'avenir de l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie sur les migrants. Alors, il y a une pétition qui est assignée sur le site d'Amnesty. L'Union européenne menace d'expulser un premier réfugié syrien. Donc, il y a tout juste un an, l'accord Union européenne-Turquie entrait en vigueur. 2 jours avant, les dirigeants européens s'étaient réunis à Bruxelles et passant outre à leurs obligations internationales, ils avaient convenu que toute personne arrivant de manière irrégulière sur les îles grecques, y compris les demandeurs d'asile, devrait être envoyée en Turquie. En échange, la Turquie recevrait 6 milliards d'euros pour aider l'immense communauté de réfugiés accueillis dans ce pays. Les ressortissants turcs pourraient se rendre en Europe sans visa. Et une fois que le nombre d'arrivées irrégulières aurait diminué, un dispositif humanitaire volontaire visant à transférer des Syriens de la Turquie vers d'autres pays européens serait déclenché. Cependant, l'hypothèse à partir de laquelle cet accord a été établi, c'est-à-dire que la Turquie serait un pays sûr pour les réfugiés, était erronée. Au cours des mois qui ont suivi, les commissions d'appel en matière d'asile établies en Grèce ont statué dans de nombreux cas que la Turquie ne fournissait pas une protection efficace aux réfugiés. Par conséquent, toutes les demandes d'asile ont dû être examinées en Grèce et les réfugiés se sont trouvés parqués sur les îles grecques dans des conditions sordides et dangereuses. En juin 2016, de nouvelles commissions d'appel grecques ont finalement estimé que la Turquie n'était plus un pays peu sûr pour les personnes qui y seraient renvoyées. La validité de cet avis est au cœur du dossier judiciaire de Nori, dont on vous parlait et donc pour qui il y a une pétition à signer puisqu'il risque d'être expulsé. Depuis un an, des responsables européens présentent l'accord Union européenne-Turquie comme une réussite, Certains tentent même d'en faire un modèle à reproduire avec d'autres pays. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est que le nombre d'arrivées irrégulières en Europe a nettement diminué, même à court terme. D'autres composantes de l'accord, par exemple la promesse d'une véritable solution sûre et légale pour sortir de Turquie, ne sont pas encore concrétisées. Au 27 février 2017, le nombre de réfugiés syriens transférés de la Turquie vers des États membres de l'Union européenne s'élevait à 3565. Un chiffre tout à fait négligeable quand on le compare aux 2,8 millions de Syriens actuellement en Turquie. Dans les îles grecques, le coût humain de l'accord est évident. Non autorisés à poursuivre leur route, des milliers de demandeurs d'asile se retrouvent dans une situation incertaine. Des femmes, des enfants, des hommes se languissent dans des conditions inhumaines, dormant dans des tentes peu solides, bravant la neige, parfois victimes de crimes violents motivés par la haine. 5 personnes réfugiées à Lesbos, dont un enfant, sont mortes à la suite de ces conditions. Après la mort de 3 hommes dans le camp de Moria, en janvier 2017, un homme vivant sur place a déclaré à Amnesty International « C'est une tombe pour les humains. C'est l'enfer sur terre. » Un autre réfugié syrien âgé de 20 ans a indiqué « Je me suis enfui de la Syrie pour éviter la prison, mais me voilà emprisonné. » Ces 12 derniers mois, Amnesty International a recensé des cas où des demandeurs d'asile syriens ont été renvoyés de force en Turquie sans avoir pu déposer leur demande et sans pouvoir contester leur renvoi en violation totale du droit international, dont sont repartis en Turquie de leur plein gré en raison de la situation désastreuse sur les îles grecques. En Turquie, les réfugiés syriens bénéficient d'une protection temporaire, mais sont livrés à eux-mêmes. Les autorités turques refusent d'octroyer le statut de réfugié à part entière aux non-européens. Et les conditions dans le pays montrent qu'elles ne sont pas en mesure de fournir la protection efficace exigée par le droit international. Les 3 millions de réfugiés présents en Turquie, qui sont presque tous non-européens, n'ont donc aucun moyen d'être autonomes. Ayant des difficultés à répondre aux besoins essentiels de ces personnes, les autorités turques ne sont pas en capacité de veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d'asile puissent vivre dans la dignité. Amnesty International a constaté que la Turquie a renvoyé des demandeurs d'asile et des réfugiés dans des pays où ils risquent d'être victimes de graves atteintes aux droits humains, notamment en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Il est évident qu'au lieu d'essayer de renvoyer des demandeurs d'asile et des réfugiés en Turquie, l'Union européenne doit collaborer avec les autorités grecques pour les transférer sans délai en Grèce continentale, afin que leur cas soit traité. Les gouvernements européens doivent permettre aux demandeurs d'asile comme Nouri d'accéder à des moyens sûrs et légaux de rejoindre d'autres pays d'Europe, tels que la relocalisation, le regroupement familial ou les visas humanitaires. Voilà.
À propos de cet accord effectivement qui avait été dénoncé entre l'Europe et la Turquie depuis dès le début par Amnesty International, qui disait que ça revenait en fait à faire une traite des êtres humains, parce qu'on échangeait des gens contre des gens, donc ça s'appelle de la traite, et que c'était bafouer les droits, les différents traités internationaux concernant les droits fondamentaux. Il y a pas mal d'officiels européens qui commencent à le reconnaître à demi-mot maintenant, en disant que c'était peut-être pas un si bon accord que ça. Que peut-être que la Turquie, effectivement, allait en profiter. Peut-être qu'on ne pouvait pas faire confiance vraiment au gouvernement de M. Erdogan. Peut-être qu'on s'aperçoit que ce qu'avait dit Amnesty depuis le début avec d'autres ONG, eh ben, c'était exactement ce qui est en train de se passer. Et comme pour la Syrie tout à l'heure, il vaut mieux intervenir avant que de s'apercevoir de la catastrophe. Après, malheureusement, on fait toujours le contraire. Et puis, j'ai entendu aussi parler récemment qu'en Turquie, il y avait des enquêtes qui avaient mené à la découverte que des enfants syriens, des enfants de réfugiés syriens mineurs, étaient utilisés dans les usines de confection d'habillement, entre autres, au mépris d'interdiction du travail des enfants que la Turquie a signé, et qu'on ne leur demande même pas leur avis, parce que ces gens-là, effectivement, n'ont aucun statut légal sur place, donc ils sont taillables et corvéables à merci, et que ça commence à ressembler plus à de l'esclavage qu'à autre chose. Donc voilà, après, on s'étonnera effectivement que ces gens-là ne sont pas, entre guillemets, contents. On voulait continuer sur quoi?
Parler de la Hongrie.
Oui, je voulais parler de la Hongrie. Je vais en dire un petit mot. Enfin, on va en parler rapidement.
Ça fout les miquettes, je vous le dis.
Ah, j'attendais ton expression.
Exactement.
T'as réussi à la sortir.
Oui.
La Hongrie, c'est un pays qui est dirigé par un président depuis quelques années, qui est un copain de la fille du monsieur dont on parlait tout à l'heure, qui est candidate à l'Élysée. C'est un grand copain à elle. Ça, j'invente rien. Est-ce qui se passe là-bas,
ça fait penser au Lougri, tout ça. Bref.
Oui. Ce qui se passe là-bas, laisse imaginer ce qui pourrait se passer chez nous si par malheur, etc., etc. Cette personne-là obtenait un vote positif. Donc, c'est un article qui est là aussi tiré de la chronique qui vient de sortir, la chronique d'Amnesty International, et qui dit « La Hongrie se ferme, au risque de perdre son humanité. Elle refuse d'entendre les appels à l'aide des personnes fuyant les conflits et la misère. Ne pas accueillir, ne plus permettre le passage sur son territoire. Porte d'entrée vers une Europe espérée, vers l'Angleterre, vers un peu de répit. Repousser toujours plus loin les migrants, les dissuader de poser un pied en terre magyare. » Magyar, c'est un autre nom pour la Hongrie. Et si tout cela ne suffit pas, les enfermer. Voilà le triste spectacle qu'offre la Hongrie du xénophobe Viktor Orban. C'est lui qui est le copain de la susdite.
La susdite,
oui.
De la dynastie.
Oui, de Marine, pour ne pas la nommer. Et il pourrait bien en inspirer quelques-uns en Europe. Oui, Marine Le Pen, c'est hypocrite. Début mars, Médecins sans frontières affirmait que les migrants qui entrent en Hongrie sont systématiquement molestés par les policiers. Il ne semble pas s'agir de dérapage d'un ou deux policiers, mais de quelque chose d'organisé, de routinier. À la frontière serbo-hongroise, l'organisation a constaté des coups, l'usage de gaz lacrymogène et la confiscation de chaussures, cela en plein hiver. Une sorte de forfait d'accueil offert par la police aux frontières après le passage de la clôture barbelée, supposé protéger la Hongrie. Ces murs et les coups ne sont pas dissuasifs. 7000 personnes se trouvent actuellement bloquées à la frontière serbe dans l'attente d'un passage en Hongrie. Le Parlement a trouvé autre chose. Enfermer les migrants dans des conteneurs en attendant de les expulser. Le 7 mars, par 138 voix contre 6 et 22 abstentions, le Parlement de Budapest a voté le rétablissement de la mise en détention automatique des demandeurs d'asile. Cela concerne les nouveaux venus, comme ceux déjà présents sur le territoire, presque 6000 personnes fin février. Déjà en 2013, la Hongrie avait été contrainte d'abroger ce texte de loi sous la pression de l'Union européenne, du Haut Commissariat aux réfugiés et de la Cour européenne des droits de l'homme. Malgré ce premier renvoi dans les cordes, le Parlement de Budapest tente d'imposer une mesure qui viole la Convention européenne des droits de l'homme. L'indignation légitime des instances européennes vis-à-vis des décisions hongroises ne doit pas faire oublier l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016, et dont Claire Lise vient de vous parler. Celui-ci permet de renvoyer en Turquie toute personne qui arrive en Grèce. À cause de cet accord, des milliers de personnes se retrouvent bloquées dans des conditions indignes. C'est ce qu'on vient de dire. À utiliser des chiffres pour désigner les migrants, à évoquer l'homogénéité ethnique et culturelle, comme l'a fait récemment Viktor Orban, le président hongrois, lors d'un discours raciste en Hongrie, les Européens oublient un élément essentiel et fondateur de l'Union européenne, la solidarité. Voilà. Eh bien, comme on va voter dans peu de temps, réfléchissez bien tous qui nous écoutez. Je n'ai pas du tout envie de connaître ça ici.
Allez, Rona, une petite pause musicale.
C'est si gentiment demandé.
Ou est-ce que c'est qu'un rêve? limite jusqu'à ce qu'on s'en écœure. Prise au piège de la pub et du téléviseur. On critique un système dont on est les acteurs. On s'indigne, on s'insurge, drapé dans des valeurs. Une main sur le livre et l'autre sur le cœur. On y préparait l'avenir, réparer nos erreurs. Mais quand il s'agit d'agir, on devient spectateur. C'est la question que je pose. Jusqu'où on s'interroger, se mettre en cause. Est-ce qu'on est prêt à changer? Oui, changer. Est-ce qu'on veut vraiment changer? Faire que les choses bougent ou attendre l'alerte rouge? Est-ce qu'on est prêt à changer? Oui, changer. Nous améliorer. Ou tout ça n'est plus qu'un rêve. Installés dans nos petits palais, on ne pense qu'à faire de l'oseille.
Money, 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 money.
Ce confort que l'on croit mériter, il y en a forcément qui le paye. Oui, c'est la question que je pose.
Donc nous venons d'écouter un artiste qui s'appelle Tairo, qui est un artiste reggae. Et donc une petite pub, il commence une tournée nationale à partir de début mars. Et en fin de compte, il est militant au niveau d'Amnesty. Donc à chaque concert, il parle d'Amnesty. Donc c'était un petit... C'est pour ça que j'ai passé François ce soir. Ouais, un petit cadeau que je cherchais. Bon, merci François.
Faut pas hésiter à passer des artistes qui soutiennent l'Amnesty quand même.
Tout à fait, mais j'avais un trou de mémoire, c'est tout.
Mais ah. il a fait un clip en faveur de la campagne Welcome.
Voilà, et
la
le titre, pour les gens qui n'ont pas compris, c'est changer.
Oui, aussi, on avait compris ça.
Bon, pourquoi tu m'as posé la question alors?
Parce que pour le plaisir de t'entendre. Parce
qu'Amnesty demande qu'il y a des choses qui changent. Bon, ben, ça se saura quand même.
Tout à fait. Bon, je pense qu'on
va passer à Françoise. C'est à Françoise qui va vous proposer d'agir. Voilà.
Je vais vous proposer une action par rapport au Nigeria. Donc, on change de continent. Il faut que des expulsions forcées cessent dans l'état de Lagos. Le 26 mars dernier, plus de 4000 habitants d'Otodo-Gmame, un quartier de Lagos, Nigeria, situé au bord de l'eau, ont été expulsés de force de leur logement par des représentants de l'état de Lagos. Aucun préavis ne leur a été communiqué. La police a eu recours à une force excessive, faisant plusieurs blessés. Donc le 26 mars, l'équipe spéciale constituée par différentes entités de l'état de Lagos a expulsé de force des milliers d'habitants, dont des familles avec enfants, de ce quartier de Lagos, situé donc près de l'eau. C'était la troisième fois que des personnes vivant dans ce secteur étaient expulsées de force. L'État de Lagos avait déjà chassé de leur logement plus de 30 000 habitants les 9 et 10 novembre 2016 et d'autres le 17 mars 2017. Après les expulsions de novembre 2016, les personnes concernées avaient reconstruit leurs habitations. Sans préavis, l'équipe spéciale et des policiers sont arrivés dans ce quartier vers 8 heures du matin avec un bulldozer. Les habitants ont formé des chaînes humaines pour protéger le logement. Les policiers ont à l'heure utilisé des gaz lacrymogènes tirés en l'air, forçant les habitants à fuir. Ils leur ont asséné des coups de crosse, faisant plusieurs blessés. En outre, une femme a été blessée par une grenade lacrymogène. L'équipe spéciale a détruit quelques-uns des logements restants. Pourtant, une décision de justice rendue le 26 janvier par la Haute Cour interdisait toute démolition. 5 femmes et 3 hommes, dont un de plus de 70 ans, incapable de marcher du fait des coups qu'il avait reçus, ont été arrêtés pendant l'opération. Ces 8 personnes ont été libérées au bout d'une dizaine d'heures. Depuis 2000, plus de 2 millions d'habitants de quartiers informels et de quartiers situés au bord de l'eau ont été expulsés de force de leur logement dans cet état. Donc Amnesty demande que ces opérations, qui ont déjà fait des milliers de sans-abri, eh bien cessent et au moins qu'on trouve des solutions pour reloger les gens. Voilà, alors si vous voulez faire cette action, eh bien, vous nous mettez un petit mail sur amnesty.evreux@gmail.com en mettant Action Nigeria et nous vous renverrons l'action à faire avant le 8 mai. Merci d'avance.
Voilà, n'oubliez pas que chaque action, comme chaque signature sur les pétitions, compte. C'est fondamentalement important, c'est comme ça que les choses avancent. Notre actualité locale, on termine toujours par l'actualité locale et là le temps passe.
Oui. Le 25 avril à 20h au Cadran.
C'est ça.
Nous avons une table pour le spectacle Les femmes savantes.
Oui, Trissotin ou Les femmes savantes, la pièce de Molière, mais en fait, c'est à travers le droit des femmes, c'est à travers ce thème-là qu'on sera présent lors de la soirée au Cadran. À 20h au Cadran, tu as dit Mina ?
Mardi 25 avril.
Et comme on a le don d'ubiquité, le même jour, on sera aussi à la radio.
Et après, la veille, nous serons en réunion d'Amnesty le 24 avril.
Oui, mais entre nous, les gens.
Non, parce que les gens, ils peuvent venir nous rejoindre s'ils ont envie.
Ah oui.
Il y a peut-être des gens qui sont militants d'Amnesty sur Évreux, qu'on ne connaît pas.
Exactement.
Qui sont adhérents et qui peuvent venir nous rejoindre. Donc, notre local.
3 rue Guibord. À l'espace Saint-Léger.
C'est l'espace Saint-Léger.
Voilà.
Et notre adresse mail pour nous contacter, amnesty.evreux@gmail.com.
Eh bien, cette semaine, j'ai eu un jeune qui fait des actions urgentes, qui a téléphoné au téléphone d'Amnesty, qui voulait faire une action avec nous. Je lui ai proposé des actions urgentes et il s'est engagé à les faire.
Eh bien, voilà. C'est comme ça, encore une fois, c'est comme ça qu'on avance.
Alors, chez moi, on dit imik-simik, petit peu par petit peu. C'est berbère.
C'est berbère, ouais. Ah ouais. Comment tu dis?
Imik simik.
Tu nous feras une émission en berbère un jour, Mina ?
Inch'Allah, comme on dit.
Oui, ça on connaît, mais imik simik, je ne connaissais pas. Tu nous feras une émission en berbère une fois Tu parles couramment berbère ?
Oui, très peu.
Ah bon, bah alors, voilà.
Mais bon, on peut essayer, hein. Je préparerai encore plus.
Bon, pour terminer sur une note positive, on a encore une minute. Ronan, une bonne nouvelle en une minute, je te pose une colle. Une bonne nouvelle en une minute, il a déjà rangé ses papiers.
Pour poser une colle, moi j'ai déjà rangé tous mes papiers, moi.
Ah bah, tu vois comment t'es. Alors, qu'est-ce que...
Je te laisse terminer.
Ah ben moi, je n'ai pas de bonne nouvelle. C'est ta spécialité. Je ne voudrais pas te couper l'herbe sous le pied. Donc voilà, il ressort ses papiers.
Eh oui, en une minute. Parce que j'avais préparé plein de choses, mais ça prenait...
Non, t'as même plus une minute. Il faut que tu te dépêches. Tu vas te couper la parole à toi-même, comme c'est toi qui le fais à la fin.
Oh, mais ça ne me dérange pas, ça, de me couper la parole. Ce n'est pas un souci. Alors, tu m'as pris au piège.
C'était un gag.
Ah ouais,
c'était
un gag. Attends, mais je vais le relever.
T'auras plus le temps maintenant. T'auras plus le temps.
La bonne nouvelle, vous savez, la bonne nouvelle, donc, c'est que vous nous retrouvez le mois prochain.
Bah non, avant le mois prochain, on retrouve le 25.
Le 25 avril.
Ouais, mais depuis qu'on fait une émission, maintenant, tous les 15 jours, je suis un peu.
T'es perdu.
On vient de dire que le 25 avril, on était à la fois au cadran et à la radio.
Non, mais j'ai suivi.
Bon.
T'as suivi presque.
Allez. Bonne soirée à vous et à dans 15
jours. Bonne soirée, à bientôt.
Au revoir.
Partout.